Radio Barque, notre 36e de la saison. Nous entamons cette deuxième partie, Michel, avec un sujet que tu as intitulé sur ton blog « Merdive pourra enfin changer de prénom ». Alors, explication de texte.
Oui, Jean-Claude, Merdive, Poupoune et Aïden pourront enfin changer de prénom. Beaucoup plus vite et pour beaucoup moins cher. Petit nom quand même, il faut bien le reconnaître, d'un ridicule absolu, quoi. Hein. Petit prénom, alors je n'en ai cité que trois, mais j'aurais pu en citer en fait, beaucoup plus. Bon, passons. Donc fini les moqueries,
enfin,
les brimades.
Il est vrai que merdive en français, quand même, c'est lourd à porter.
Ouais, bah, t'imagines un peu dans les cours d'école, quoi. Hein, dans les cours d'école et dans la rue, notamment. Donc c'est épouvantable de porter un nom pareil.
C'est un prénom
Désormais, chacun pourra changer de prénom beaucoup plus facilement et comme il entend. C'est ce qui est contenu dans le projet de loi Justice du 21e siècle, une information qui est quasiment passée sous silence. Peu personne n'en a parlé. Bon, j'en profite pour en dire deux mots ici sur Radio Grand Sud FM. Donc le projet de loi Justice du 21e siècle, qui est actuellement discuté au Sénat, qui est présenté par le ministre de la Justice, hein, va permettre, si cette mesure dont je vais parler est acceptée par les deux assemblées, ça va permettre de rendre beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de changer de prénom, et gratuit qui plus est. Hein. Donc Elvin, Elvin, Merdive et Poupoune, comme les 2700 personnes qui en font la demande pratiquement chaque année, n'auront plus besoin de se rendre au tribunal, parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Hein. Et c'est très long, la procédure est très 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 longue, et elle coûte pratiquement 5000 euros. Il suffira de se présenter à la mairie et de demander à son maire officier de l'état civil, ou à l'un de ses adjoints, de faire le travail qui était fait à l'époque par les tribunaux. Donc, alors cela dit, il y a une profession qui n'est pas contente, c'est celle des avocats.
Les avocats.
Évidemment, ils vont perdre des clients. Certains disent que ça coûte, c'est une perte de revenus par client, si je puis dire, de 2500 euros, ce qui n'est pas rien quand on est avocat dans une petite ville comme Narbonne, où les grandes affaires ne courent pas les rues, si je puis dire. Hein. Bon, en même temps, ils disent, ces avocats, mais on ne fait que déplacer le problème, on va engorger les mairies, donc les maires et les adjoints seront débordés. Donc voilà, il faut arrêter, il faut garder les choses en l'état. Les tribunaux, c'est long, les gens, ils sont excédés par la lenteur, donc ils abandonnent.
Réaction archi banale et classique en France, dès qu'on veut réformer quoi que ce soit, de toute façon.
Par contre, il y a des gens, hein, des journalistes, des intellectuels, des philosophes et
qui se sont penchés sur le problème la démerdivisation
des prénoms. Je pense notamment à l'un d'entre eux que je lis avec plaisir, parce que même si je ne suis pas d'accord avec lui, il a une belle plume, il s'appelle Maxime Tandonnet, il écrit ses chroniques dans le journal Le Figaro, et il place, à ma grande surprise, cette réforme dans la même filiation idéologique et politique que la théorie du genre, hein, le libre choix de son identité sexuelle, la disparition de l'enseignement et de l'orthographe, l'abandon quasiment de la langue française.
Drôle d'amalgame.
Donc, et ce au motif que, comme les réforme précédente, hein, serait une attaque, une attentatoire à ce qu'il appelle, lui, défini comme l'identité, à la fois d'un genre, d'un pays, et d'un homme ou d'une femme. Le prénom, distinguerait d'une manière définitive, hein, ce qu'est l'identité de non pas Michel Santo, de Merdive Santo. Donc j'aurais dû maintenir ce prénom au risque d'attenter à ma propre identité. Hein,
oui.
Franchement.
Voilà.
Comme si toutes les Merdives et Poupounes devraient suivre cette proposition de Maxime Sandoné et accepter cette assignation identitaire définitive, voulue quand même, il faut bien le dire ici, par des parents totalement irresponsable, au point de n'avoir jamais pris en compte une seule seconde, ce qui est prévu par la loi d'ailleurs, l'intérêt de leurs propres enfants. Bon, j'observe quand même que changer de prénom est déjà permis depuis fort longtemps, depuis 1955.
Même si ça coûtait cher.
Hein, donc rien de nouveau sur le seuil juridique. Par contre, si je me permets de faire une remarque périphérique à cette petite chronique, ce qu'il convient de remarquer quand même, c'est que cette liberté de choisir les prénoms et de ses enfants, qui a été voulue en 1993 par le ministre de la Justice de l'époque, M. Vauzelle, hein, et qui permet à ceux qui le souhaitent, par volonté, en fait, par inconscience ou par insouciance, de rompre avec la chaîne symbolique de la filiation parentale. On peut constater aujourd'hui que, Jean-Claude, hein, que rares sont les enfants ou les personnes qui, comme moi par exemple, sont dotés d'un double prénom, hein, qui pour beaucoup d'entre ceux de ma génération, pour le deuxième prénom en tout cas, était le prénom du grand-père ou pour des dames d'une grand-mère. Ouais, ce qui permettait effectivement de nous inscrire dans une filiation parentale, mais aussi dans un passé, en fait, hein, dans un passé historique et culturel. Donc là, en général, serait... d'ailleurs, référencé en calendrier, en fait, un prénom du calendrier.
Et ça serait une volonté de rupture, alors.
Oui, mais je crois qu'en 95, en 93, pardon, quand cette liberté a été accordée, c'était effectivement conforme à l'état des mœurs, si je puis dire, où aujourd'hui, bon, on le constate avec nos enfants et nos petits-enfants, le prénom n'a plus ce caractère symbolique est extrêmement fort, en tout cas le premier ou le deuxième, de nous inscrire encore une fois dans le passé, dans une filiation parentale. Ça correspond effectivement à l'état des mœurs d'aujourd'hui où effectivement voilà, le rapport à l'histoire, le rapport au passé, le rapport à une culture, etc., est en train de. Et les rites sociaux d'ailleurs qui les accompagnent, hein, sont en train de disparaître au profit de la culture de l'immédiat, du zapping, de la fabrication et de l'innovation, y compris des prénoms.
Finalement, curieusement et je dirais paradoxalement, ils reprennent ce vieux slogan des révolutions du début du XXe siècle, du passé faisant table rase.
C'est exactement
dont
ça.
Dont on s'est aperçu après coup que c'était une bêtise absolument monstrueuse.
Exactement. Mais ça remonte même plus loin. Autant que je m'en souvienne, Karl Marx disait lui-même que le capitalisme était une force révolutionnaire extraordinaire parce qu'elle gommait, elle cassait toutes les formes d'appartenance à un passé. C'est ce qui, on le constate historiquement, est vrai. Je veux dire, toutes les formes traditionnelles au sens du passé, d'ailleurs, etc., sont au fil du temps arasées, éliminées par un système économique et politique qui, effectivement, renvoie toujours à l'avenir, à l'innovation et à l'immédiat. Et à l'immédiat, forcément, de la consommation. Pour finir, donc, voilà, on donne des prénoms aujourd'hui comme l'on va au supermarché acheter effectivement une marque qui, 4 jours après, disparaîtra pour une autre.
Alors Jean-Pierre Grotti, notre écrivain, a un regard là-dessus.
Oui, il me semblait que qu'avoir un enfant, c'était un acte d'amour. Et que donc, quand on donnait un prénom à un enfant... On le donnait d'abord...
En toute connaissance de cause.
D'abord par amour. Et même quand on donnait le prénom ou le deuxième prénom d'une personne déjà de la famille, c'était une personne qui était estimée.
Ah, bien sûr, oui.
Donc il me semble que dans tout ce que tu viens de dire... En fait, il manque le principal, il manque l'amour que l'on peut avoir pour un enfant.
Exactement. Mm-hmm. L'amour pour son enfant, la prise en compte de son intérêt au sens, mais pas matériel, mais son intérêt au sens profond du terme, quoi, hein, qui forcément, à travers son prénom, lui attribue, d'une certaine manière aussi, une responsabilité à l'égard effectivement de tous ceux qui l'ont aimé et qui l'inscrivent dans toute parentèle où effectivement il y a de l'amour et de la présence.
Alors pour terminer succinctement cette deuxième partie, les parlementaires draguent le Merlan et le pays marche sur la tête. Il faut qu'en quelques minutes tu nous résumes ça, Michel.
Alors, pour nos auditeurs qui ne savent peut-être pas, le Merlan en argot,
c'est un coiffeur.
Et alors, quelle n'a pas été ma surprise de lire cette semaine dans le journal local une déclaration, un article plutôt présentant une prise de position de nos deux parlementaires de l'État, à savoir la sénatrice Gisèle Jourda et le député Jean-Paul Dupré, qui se sont fait d'ailleurs avec un poil de retard sur leurs confrères, si je puis dire, qui se sont fait l'écho des inquiétudes de nos perruquiers, barbiers, tifeurs, au doigt. Entre parenthèses, dans notre ville de Narbonne, quand on fait le rapport entre le nombre de barbiers fêtés et la population, on est largement au-dessus de la moyenne départementale et nationale. Bon, cela dit,
et alors, le sujet.
Nos friseurs, là, nos barbiers locaux, paraît-il, d'après si j'ai bien lu Gisèle Fougeronda et Jean-Paul Dupré, se font un sang d'encre et des cheveux blancs. Alors, pourquoi? Parce que Noé, c'est un acronyme, Noé, hein, c'est la nouvelle, ça veut dire nouvelle opportunité économique, ou Macron 2. Hein, donc Noé voudrait les couler, en fait, à nos tifeurs. Hein. Les merlans, en effet, ne seraient plus soumis à une qualification obligatoire.
Professionnel.
Donc, alors évidemment, le syndicat.
Donc, n'importe qui devient merlan.
Proteste. Bon, ils disent, bah, attendez, c'est un métier dangereux, en fait, il faut faire attention, donc il faut une formation. Et pour le prouver, il a eu la bonne idée, ce syndicat professionnel, d'équiper les parlementaires de ciseaux et de peignes. Pour les former justement au métier de perruquier.
Alors évidemment, c'est une
idée folle. Hein, c'est une idée folle pour ne pas dire totalement irresponsable, parce que dans une assemblée où on passe son temps à se crêper le chignon, hein, au lieu de faire la loi, hein, bon, ça peut produire des drames. Enfin bref, tout ça pour dire que ils ont peur de voir Uber imposer des Figaro dans la profession. Ce qui est vraiment tiré par les cheveux, évidemment. Oui. Comme de chercher des totos sur le choix. Les totos, pour les auditeurs, ce sont des poux, en fait, hein, comme on disait à l'époque. Hein. Bon, enfin, bref. Aujourd'hui, tu as des entrepreneurs qui sont déjà dans le métier, si je puis dire. Ils représentent 20% de la profession. Ils ne sont pas soumis, en fait, à l'obligation de...
Donc
de
ça existe, puisqu'ils donc sont, ils traitent dans des salons. Ça existe déjà.
Ça existe déjà. Hein, donc, voilà. Bon, alors que nos parlementaires nous disent ça, alors qu'aujourd'hui, en fait, le jour plus tôt, ils ont fait cette déclaration, nos trains étaient à l'arrêt et nos pompes étaient à sec. Hein. Et moi, j'aurais pu imaginer quand même que Jourda eut du prêt. Ce jour-là.
Voilà, hein, se serait intéressé à
défriser. Me défrise. J'attendais qu'ils nous disent, par exemple, que ce nouveau petit père des peuples moustachus, là, de la CGT, qui ne peut pas voir Valls ni en rose ni en peinture, vont commencer à lui casser effectivement la tête. Mais non. Ils ont préféré couper les cheveux en quatre quand le pays perd la tête, alors que franchement, il ferait bien de méditer à une petite chose quand même, c'est que leur mandat, il ne tient qu'à un cheveu.
Et c'est là-dessus qu'on marque une deuxième pause.